André de Mboumbaï au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs en ce jeudi 22 décembre 2011. Nous parlons santé avec l'épidémie de la fièvre typhoïde qui sévit depuis près d'un mois à Tikwit dans la province de Bandundu. D'après le ministère de la Santé, 1031 cas ont été enregistrés, dont 19 décès, soit un taux de létalité de 1,7%, avec 60 cas de complications, dont 57 cas de perforations intestinales. Le 13 décembre dernier, le ministre de la Santé a visité les hôpitaux où sont pris en charge les malades et s'est rendu compte de l'ampleur de la situation, tout en promettant les renforcements des mesures pour l'éradication de cette épidémie. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre cette maladie? Parole aux auditeurs a invité pour vous le docteur Benoît Kebela, responsable du programme de lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Marie-Chantal Lumba, Titi Poutou, Clovis Luboula et Jocelyne Nyanga sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Mimi Kindou assure la mise en onde et Pierrot et la Meji vous la présentent. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiookapi.net.
Nous parlons santé avec l'épidémie des fièvres typhoïdes qui s'est déclarée depuis près d'un mois à Tikwit, c'est dans la province de Bandundu. Plus de 1000 personnes ont été touchées par cette maladie au regard de l'ampleur de la situation, mais aussi face à la persistance de cette maladie à travers le pays. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre la fièvre typhoïde? Vous pouvez intervenir en direct en nous appelant au 081-890-669-669, 081-890-669-669. Mais si vous avez accès à l'internet ou vous nous suivez sur www.radiocapi.net, vous pouvez également réagir en nous envoyant votre point de vue ou soit votre question par message électronique à l'adresse pa@radiookapi.net. pa@radiookapi.net. Mais pour les interventions en direct, c'est au 081-890-669-669, 081-890-669-669. Et après, nous allons vous rappeler et comme ça, vous allez nous donner votre point de vue par rapport à la lutte efficace contre la fièvre typhoïde. Et comme je le disais, il y a la fièvre typhoïde qui est des fois dans des villes à travers le pays, mais cette fois à Kikuit dans le Bandundu, c'est une épidémie d'un coup à l'intervalle de mois, plus de 1000 personnes sont concernées par cette maladie. 081 890 669 669, c'est notre numéro d'appel pour intervenir en direct. 081 890 669 669, c'est notre numéro pour venir en direct par adresse électronique cpa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Voilà, comme je le disais, nous parlons de la fièvre typhoïde qui sévit dans la province de Bandundu. La fièvre typhoïde qui est cette maladie, comme on dit bien sûr, une maladie des mains sales qui se transmet et par, n'est-ce pas, le manque d'hygiène alimentaire, que ce soit pour l'évacuation de matières fécales, que ce soit aussi l'eau qui est essuyée et contaminée. D'ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de patients atteints dans le monde serait compris entre 16 et 33 millions de personnes, avec plus de 200 000 décès annuellement. Et la contamination, comme je le disais, c'est fait par l'ingestion de boissons ou aliments souillés par les selles d'un homme infecté, malade ou porteur. La fièvre typhoïde a rapidement régressé en France, en Europe, suite à la javelisation de l'eau, des boissons généralisées du moins en ville à partir des 1910. Voilà, nous avons déjà les auditeurs qui sont en ligne, comme Jetou qui nous appelle de Kananga, au Kasaï occidental, à qui nous allons donner la parole le temps que notre invité puisse s'installer dans ces studios. En attendant, Jetou, vous êtes en ligne, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité du jour.
Parlons de la fièvre typhoïde et surtout de quelle manière on peut parvenir à lutter efficacement contre cela. Vous allez avoir la parole, le temps pour nous de saluer le docteur Benoît Akebela. Bonjour docteur.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation pour parler cette fois de la fièvre typhoïde. Nous allons directement écouter Jetou. Vous êtes à Kananga, vous avez suivi, hein, nous avons démarré l'émission avec la situation de l'épidémie déclarée à Kikuchi dans le Bandundu. Est-ce qu'à Kananga on parle régulièrement de la fièvre typhoïde, que ce soit dans la ville ou bien dans la périphérie?
Oui, j'ai entendu parler de cette maladie. Il y a, par exemple, dans la parcelle où je suis, il y a un enfant qui est attaqué par cette maladie-là.
Et qu'est-ce que vous faites à Kananga pour lutter contre la fièvre typhoïde?
Ok. À mon niveau, je trouve que cette fièvre-là, cette maladie-là, c'est facile à éviter. Car depuis son origine, on nous dit que c'est causé par manque d'hygiène. Alors, j'ai la réponse à deux volets concernant cette question-là. Mm-hmm. Premier volet de ma réponse. Il faut prendre soin de notre eau, premièrement, si on a l'habitude d'utiliser l'eau qui est polluée. Donc, on est exposé à cette maladie-là. Il faut en purifier avec des produits pharmaceutiques. Il faut aussi prendre soin de notre nourriture. Si on a préparé, par exemple, au feuillage, à n'importe quoi que ce soit, mais il faut en préparer avec toute propriété. Car si on laisse, si on mange des nourritures dans de mauvaises conditions, donc on est exposé à cette maladie-là. Mmh. Et aussi, prendre soin à notre environnement. Si on est entouré de caca, par exemple, toutes sortes de saletés, on est exposé à cette maladie-là. Car du fait que les mouches, par exemple, se volatilisent, se posent sur des caca, ensuite, ces mêmes mouches-là, elles viennent pour s'imposer sur les nourritures déjà préparées à la table pour manger. On est exposé normalement à cette maladie-là, car c'est causé par le manque d'hygiène et il faut éviter ces cas-là. Deuxième volet de ma réponse, il faut que les gens de la santé fassent de tout leur mieux pour apprendre à la population à maîtriser les notions d'hygiène, à éviter cette maladie-là, y compris choléra, car c'est causé par manque d'hygiène. Je suis à la fin, monsieur le journaliste.
Merci, Jetou de Kananga. Vous pensez qu'il y a deux volets, hein, pour lutter efficacement contre la fièvre typhoïde. D'abord, l'hygiène, que ce soit pour l'eau, la nourriture, mais aussi l'assainissement du milieu. Mais il ne faut pas oublier aussi la sensibilisation. Merci beaucoup. Nous allons écouter Eddy qui est ici à Kinshasa. Bonjour, Eddy.
Monsieur.
On vous écoute, Eddy, par rapport à la lutte efficace contre la fièvre typhoïde.
Et d'accord. En ce qui concerne la fièvre typhoïde, étant donné que c'est une maladie de main sale, les mesures préventives vont consister, n'est-ce pas, à quelques points que je vais énumérer. Premièrement, il y a par exemple l'approvisionnement en eau potable. Il y a l'hygiène des denrées alimentaires, il y a l'évacuation d'une manière hygiénique des matières fécales, et aussi il y a la sensibilisation, donc s'appuyer sur les domaines de l'éducation, donc donner la bonne information afin que les gens apprennent à adopter des attitudes digne de leur permettre d'éviter de contracter cette maladie-là.
Oui. Voilà,
donc,
merci.
Je trouve que, principalement, on peut donc s'arrêter sur ces mesures-là.
Merci, Eddy. Nous écoutons Jean-Baptiste et Kisangani. On revient maintenant à notre invité qui est dans ce studio. Jean-Baptiste, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Kisangani, en province orientale. Vous avez suivi notre ami de Kananga et celui de Kinshasa. Ils ont beaucoup insisté sur les mesures préventives dans la lutte contre la fièvre typhoïde. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, Jean-Baptiste?
Oui, moi aussi, je m'en vais toujours dans la même ligne de conduite. parce que notre pays, si vous voyez dans toutes les grandes agglomérations que nous appelons communément villes, vraiment rien ne marche. Il y a trop de saleté, toutes nos grandes villes n'ont plus les statuts de ville. Donc la saleté se trouve partout. Et c'est d'abord le grand problème qui est là. L'État a une grande part de responsabilité. C'est vrai que nous aussi, nous la population, nous avons notre part de responsabilité, mais c'est à l'État qui revient la grande tâche de la sensibilisation, d'apporter des moyens tels que produits pour nettoyer de l'eau, curer les caniveaux et ainsi de suite. Vous savez, dans l'ancien temps, il y avait un service de cantonniers au Congo. Mais actuellement, ça n'existe plus. Cela revient à l'État de s'occuper de cette chose. C'est vrai que nous aussi, en tant que la population, nous avons notre part de responsabilité de bien préparer, surtout de nettoyer les entourages de nos résidents.
L'assainissement du milieu, oui.
De tenir très propre nos installations sanitaires, telles que les WC, les douches, et ainsi de suite. Et cela, c'est vraiment une situation qui nous préoccupe beaucoup.
Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste. Malong a gardé la ligne, nous allons revenir à vous. Le temps de pouvoir écouter aussi notre invité.
Parole aux auditeurs.
Docteur Benoît Kébéla, peut-être avant de revenir aux propositions des auditeurs, revenons d'abord parce que vous avez effectué avec le ministre de la Santé la visite, je crois bien, des Kikwit. Dans l'introduction, nous avons parlé des 1031 cas qui ont été enregistrés, on a parlé des 19 décès. Est-ce que les choses ont pu évoluer? Cela veut dire qu'il y a eu des cas qui se sont ajoutés par rapport à l'épidémie des Kikwit ou bien il y a eu stabilisation par rapport aux données actuelles que vous pouvez avoir?
Okay. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, si on prend au jour les rapports qu'on a eu hier soir, il faisait état de 1365 cas, dont les cas sont ajoutés, puis 21 décès et 106 cas de complications. Bien sûr, on vous dit qu'il y a un travail qui est fait au niveau du nombre de cas parce qu'on doit faire le toilettage des listes de tous les registres. Parce que le problème qu'on a trouvé sur place, comme le ministre l'avait dit, il y a un problème sur la définition des cas. Vous savez que le cas des typhoïdes ou du bécantari, il peut se confondre au cas des paludismes. Donc, parce que la symptomatologie des symptômes de fièvre ne sont pas tellement spécifiques. Bon, vous trouvez un malade qui vient, il se présente avec fièvre, céphalée, des petits troubles digestifs banals, où vous avez la constipation, vous avez la diarrhée, mais surtout la fièvre qui est élevée. Même dans les cas aussi, des fois avec des frissons, même dans les cas aussi des palus, on peut aussi observer ça. Mais ici, il est demandé de faire certains examens, et puis il y a l'hémoculture. L'hémoculture, ça dit que l'hémoculture, on prend les sang, on cherche les microbes dans le sang, et si on voit ces microbes, ça c'est vraiment un examen principal. Mais à Kikwit, on a plus tablé sur la définition des cas. C'est ainsi que vous avez vu, puis on a plus beaucoup de gens, même il y a des enfants qui sont là-dedans.
Et mais qui tous ne sont pas vraiment concernés. Pas,
c'est possible, il y a beaucoup de chances que parmi les cas, il y a beaucoup de faux positifs.
Voilà.
Beaucoup de faux positifs. Mais là, le travail qui est fait sur place, l'équipe parle. Bon, moi, je vais m'y aller la semaine prochaine. C'est l'équipe, le travail de faire le toilettage de ces listes. Puisque même nous avons observé sur place, il y a des cas qui venaient, qu'on ne faisait pas l'examen de recherche de paludisme, un goût épaisse pour voir est-ce que c'est réellement ça. Bien sûr, avec, c'était le contexte épidémique, tous les cas qui venaient, qui présentaient la fièvre, céphalée, vomissement, douleur abdominale, tous ces cas, on les prenait comme cas de fièvre, les fièvres typhoïdes, c'est ainsi, vous voyez. Il y a des cas de
douleur
qui augmentent. Hein. Mais nous disons que oui, effectivement, il y a eu la fièvre typhoïde à Kikwit, qui est la forme épidémique, parce qu'on a eu beaucoup de cas, de perforation. Nous pouvons dire ça. Mais maintenant, l'ampleur actuellement qui est décrite par le nombre de cas, nous pensons qu'il y a un travail qu'on doit encore qu'on doit faire. Et n'oublions pas que ce soit Kikwit, qu'il soit Kinshasa, ce sont même des grandes villes, comme a dit c'est ton auditeur. Bon, ce sont des endroits où la fièvre typhoïde est endémique. Et puis quand vous avez les pluies, prend la forme épidémique.
Et bon, c'est pour permettre à l'auditeur de comprendre, vous avez parlé de la endémique, épidémique. Quel est le seuil pour qu'on puisse dire
non,
que
c'est
là on a
ici,
une épidémie?
Bien sûr, ici il nous est difficile de dire quel est le seuil des fièvres typhoïdes. Mais nous prenons une endémique quand vous avez, parce qu'on prend les données d'une semaine à l'autre. Quand toute l'année, semaine à l'autre, vous avez une moyenne qui est la même, qui est la constance. Là, vous dites, nous avons tous les temps un exemple. Si vous avez tous les temps, on vous signale avec les, par définition, des cas qui ne sont pas confirmés.
Mm-hmm.
Prenons, vous dites, vous avez 30 cas. Chaque semaine, 30 cas, 30 cas, 30 cas. Là, c'est une forme, vous dites, endémique, donc il n'y a pas un phénomène épidémique, épidémique, mm-hmm. il y a plusieurs.
Voilà.
Et si, par exemple, vous avez 30, 30 cas une semaine, vous commencez à avoir 40, 50, 60, là, c'est une forme épidémique, parce que vous avez un nombre de cas qui est plus élevé qu'à normal.
Mm-hmm.
Là, vous pouvez parler de forme épidémique.
Et
c'est ce qu'on a observé, on peut dire, en suivant la courbe
mm-hmm.
des cas, présumés des cas qui notifient comme fièvre typhoïde qui quitte. On a observé qu'à partir de la semaine 44, du coup, on a vu une augmentation des cas de céphalée, fièvre, et puis, surtout avec perforation, c'est là qui s'est parti l'alerte quoi.
Mmh. Ah. Et naturellement, quand est-ce que l'épidémie se déclenche, par exemple, est-ce qu'il y a une situation particulière qui fait à ce qu'on puisse partir par exemple de la situation endémique à une épidémie? Y a-t-il des facteurs qui viennent favoriser cela?
D'accord.
Parce que de plus en plus on parle de typhoïde dans nos villes, on va au consul qu'on en a.
Bon, ça veut dire que nous pouvons, si on peut bien expliquer. La fièvre typhoïde, c'est une fièvre, une affection qui est strictement humaine.
Mm-hmm.
C'est dû à un microbe, un germe qui se trouve dans les selles, dans les tubes digestifs de l'homme. Mais la dissémination des germes est faite par les matières fécales, comme a dit un auditeur.
Mm-hmm.
Et cette dissémination est faite par les malades, parce qu'il y a des germes en lui, par le malade guéri par les porteurs sains. Parce qu'un porteur sain peut laisser avec paix dissémer les germes durant une année. La différence avec le choléra, quand un porteur sain, c'est à 15 jours, il va excréter les germes, c'est fini. Mais un type qui a les porteurs sains des feux typhoïdes, il peut faire plusieurs années, une année, environ une année, quelques mois, une année, il ne fait qu'excréter
dans son ambulance. Il croit qu'il est en bonne santé.
Oui, c'est-à-dire que bon, tu as été atteint par les germes,
mm-hmm.
et puis tu as été guéri. Ou c'est passé inaperçu, et puis ça reste, les germes sont dans toi, dans les vésicules biliaires, comme on l'appelle, et tu continues à excréter par les urines, par les selles. Tu peux prendre une année. C'est ainsi qu'on trouve les milieux vraiment les milieux de contamination, c'est les milieux des malades,
mm-hmm.
et les milieux des porteurs sains.
Mm-hmm.
C'est ces milieux-là, où il y a le milieu vraiment des grandes contagions.
Mm-hmm.
Et on trouve, souvent les épidémies sont déclenchées. L'étude faite se déclencher surtout par l'ingestion, comme on appelle les aliments sucrés. Mais ici, souvent ça part de quoi? Ça part soit des poissons mal conservés, soit ça part des gibiers.
Mm-hmm.
On veut décrire des gibiers. Et puis je prends l'exemple des cucuites, en posant des questions. Il y a les médecins, c'est un médecin qui ont reconnu. Ils ont constaté ça. C'est quand il y a eu le consommation, il y a eu des poissons qui étaient venus, c'est pas des poissons fasanés, qui venaient des côtés de Mandombe, tu vois, quand tu étais avec le poisson dans l'eau. Et ces poissons, quand ces poissons, les gens ont commencé à consommer ces poissons, c'est là qu'ils ont constaté l'apparition des cas. Donc ici, c'est cette ingestion, parce que souvent, c'est pas d'origine alimentaire. Hein. D'origine alimentaire, soit les gibiers, soit les poissons fumés, mal conservés, et puis soit, quand vous prenez des légumes, mais qu'on a utilisé l'eau provenant, l'eau mm-hmm. sucrée par les matières fécales, pour, comme les mamans maraîchères qui font. Là, c'est là que vous pouvez avoir ça. Donc ici, on peut dire les déclenchements de l'épidémie, part souvent de l'ingestion, ça part souvent de la gestion du côté alimentaire. Bon, mais une fois ça part, les personnes qui ont attrapé, ils seront guéris, mais il faut laisser les porteurs sains. Et c'est eux qui vont continuer à disséminer. Ça peut être plus comme ça. Vous avez des cas par-ci, par-là. Il suffit maintenant un problème qui arrive sur les grands problèmes chez les enfants. Quand vous avez des cas de malnutrition, des cas de maladie, mm-hmm. bon, ça explose, quoi.
Voilà. Et avant d'écouter d'autres auditeurs, est-ce qu'il y a des zones géographiques qui sont plus exposées que les autres? Par exemple, ça, entre le milieu rural, le milieu urbain, quels sont les milieux qui sont vraiment exposés à développer, qui peuvent être endémiques ou peuvent développer une épidémie?
C'est-à-dire que nous avons observé, je prends mon expérience personnelle,
mm-hmm.
et puis même au niveau de la direction, avec toutes les données qui viennent des provinces,
mm-hmm.
nous observons plus la notification des cas hémorragiques qui vient des grandes villes, comme a dit un. C'est pourquoi, parce qu'au niveau des grandes villes, il y a un problème, c'est la gestion des matières fécales.
Voilà.
Vous partez dans les villages, vous ne trouverez pas de matières fécales
exposées. Comme en ville. Oui.
Mais quand vous êtes en ville, je pense que même à Kinshasa, il y a certains quartiers où vous n'allez pas vous
procurer des matières
fécales. C'est ça le grand problème.
Mm-hmm.
Parce que le malaise, la fièvre typhoïde, plus c'est une mauvaise gestion des matières fécales.
Voilà.
C'est ça les grands problèmes.
Mm-hmm.
Et on constate que les gens qui sont dans le milieu urbain, ils ont une bonne gestion de matières fécales que les gens qui sont dans la ville. Dans les villes,
les gens qui sont dans le
milieu rural.
Ils ont une bonne gestion de matières fécales que ceux qui sont en ville. Oui.
Parce que dans le milieu rural, vous n'allez pas trouver les matières fécales, un type de fait comme si de fait qu'on était des sorciers.
Voilà.
Mais ici en ville, vous trouvez les gens qui de fait dans les sachets et qui jettent, quoi. Au village, si tu fais ça, les gens vont commencer à crier, on passe les matières fécales, ils disent, on fait les gris-gris, tu seras malade, et les gens ont peur.
Et on va brûler ça, et puis après, quand on te dit qu'on brûle ça.
Voilà. Mais c'est ça les grands problèmes, nous observons plus les problèmes de ferroutifouille dans les milieux. Et aussi, vous savez que les milieux urbains, les grandes villes que nous avons maintenant, c'est des grandes villes conçues pour les nombres, par exemple, Kinshasa, il y a 2 millions d'habitants.
Et aujourd'hui, on parle de 10 millions.
Non, 10 millions. Maintenant, la gestion des 10 millions continue à faire difficile. Parce que, et puis avant, vous avez les problèmes de tous ces fosses éthiques actuellement qui rendent plus difficile de vider. À l'époque, je prends le bandal, les tafons grandeur bandal, le faux sceptique, il y avait une canalisation qui était bien faite, il ne sait pas où ça partait. Mais actuellement, il faut appeler les gens qui viennent
en plein air,
et puis les gens en plein air, vous savez, durant la pluie, ils vident, c'est dans la parcelle,
sur l'avenue.
Voilà, et puis avec ça, l'homme est en contact avec toutes ces matières fécales, avec cette eau qui est souillée. Et ne soyez pas étonnés qu'ils développent ça.
Ok, nous allons écouter les auditeurs parce qu'on pourra revenir, hein, comme ils ont déjà commencé à avancer. En fait, ils donnent déjà des mesures pour la lutte, c'est déjà très bien.
Oui, mais j'ai apprécié parce que tout le monde, je suis content parce qu'ils comprennent. Au moins, ont compris que pour éviter la fièvre typhoïde, c'est l'hygiène qu'il faut. L'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire et l'hygiène, même la gestion des matières fécales. Il y a un que j'ai noté quelqu'un qui a dit...
Oui.
L'évacuation hygiénique des matières fécales. Vraiment, ça c'est formidable.
Voilà. Ouais. Ami, si vous êtes à Kindu, Malonga est dans les Bandundu. On commence avec vous, Malonga. Vous êtes dans les Bandundu. Bonjour, Malonga.
Bonjour, M. Perrault.
Vous êtes à Bandunduville, je crois.
Oui, je suis à Bandunduville.
Vous avez suivi comment notre invité a pu décrire les différentes étapes pour la maladie, comment elle peut se développer, parce qu'on ne va pas, dans ces débats, entrer dans les débats trop scientifiques. Nous restons dans cette sensibilisation pour que nous puissions comprendre quel est notre degré de responsabilité dans la lutte contre la fièvre typhoïde. On vous écoute, Malonga.
Ok, merci. Il va le propos de notre invité. Oui, ce qu'il est en train de dire, oui, c'est bien. Puisqu'il est qualifié et il est expérimenté. Mais sur le terrain, comment peut-on adapter tout ce qu'il vient de dire là-bas? Puisqu'en disant, c'est bien. Mais ce qui me fait étonner souvent, la ville de Kikwit, ça se fabrique comme un bassin de réservoir de microbes. Puisque si une épidémie arrive là-bas, en tout cas pour se disparaître, il faut fournir un beaucoup d'efforts. En tel est le cas d'Ebola, vous savez l'histoire, et puis la fièvre typhoïde aussi arrive là-bas, car il y a la fièvre typhoïde. Mais ce n'est pas les personnes brutalement comme ça. Alors qu'est-ce que notre invité peut nous dire? On peut pratiquer pour épargner cette ville d'abord à ces épidémies. En plus, c'est encore au Pérou. J'étais là à Kikwit. J'ai fait là 3 mois dans l'année antérieure là-bas. Mais j'ai vu, puisque je sais que la typhoïde, c'est une maladie de nasale et de la saleté. Hier, nous avions aussi une émission pour notre débat de la salubrité, les immondices. Mais en Kikwit, si vous arrivez, moi, en Pérou, si vous me voyez, je suis un grand homme, mais je me lavais là-bas 1 litre d'eau. Est-ce que j'étais propre? Alors, il faut que l'État, en tout cas, se force pour d'abord faire réanimer la régie des eaux là-bas, à moins que la majorité des parcelles aient de l'eau. Puisque si quelqu'un se lave, et il ne s'arrive pas à se nettoyer comme il faut. Il vient avec la saleté. Et en contact avec les aliments, il consomme immédiatement et directement. Quelle que soit la diarrhée, la typhoïde, et n'importe quelle maladie, elle sera rapidement contaminée.
Voilà.
Alors, il faut il faut qu'on songe comment est-ce qu'on peut priver qui quitte souvent à des maladies épidémiques.
Mmh, voilà. Oui, merci Malonga. Vous pensez qu'il y a plusieurs fois des épidémies qui se déclarent à Kikwit, mais il y a un problème, c'est la gestion de toutes les mesures ici sur le plan pratique. Comment ça peut se faire sur terrain? Il faudrait de l'eau potable, tout cela. L'invité a évoqué ces problèmes de l'augmentation de la population dans les centres urbains ou les villes qui étaient aménagées pour 2 millions de personnes. On a, par exemple, 10 millions à Kinshasa. Tous ces problèmes se posent. Comment faudrait-il gérer toute cette population? Comment il faudrait évacuer toutes ces matières fécales? C'est ça votre souci. Merci beaucoup. Amissi, vous êtes à Kindu dans le Maniema. Bonjour Amissi.
Bonjour.
Mm-hmm. On vous écoute.
Ok. Merci monsieur le journaliste. Je commencerai d'abord à féliciter l'invité. Et il a bien agencé les idées. Et c'est purement scientifique. Et ce que moi j'aimerais, je déplore dans tout ce qu'il est en train de dire là-bas. À la radio, vous savez, beaucoup de gens n'ont pas de poste de radio. Ceux qui ont des radios sont minoritaires. Mm-hmm. Pourquoi d'abord les sensibilisateurs ne doivent pas passer porte à porte ou sur des avenues, mm-hmm. sensibiliser les gens pour éviter cette maladie-là? Vous savez, pendant la campagne ici, on a vu les politiciens ont sensibilisé les gens porte à porte. Et tout le monde était à l'écoute, était informé de tel candidat, tel candidat. Pourquoi les services de sensibilisation ne doivent pas pratiquer cette méthode-là? Ça, c'est un. Deux, j'aimerais encore dire ceci. C'est un regret d'abord. Le gouvernement congolais, il y a un ministère de la Santé. Et ce ministère de la Santé a des services spécialisés, tels que l'hygiène, l'environnement, tout ça, tout ça. Pourquoi tous ces services-là qui s'occupent de l'hygiène ne doivent pas se mettre en synergie pour combattre cette maladie-là? Ici que je vous parle, je suis dans la commune d'Alongoli. Je suis entouré des eaux stagnantes qui ne coulent pas. Et aucun service ne s'occupe de ça. Et puis, dans cette commune, depuis que cette commune est dans ce monde, elle n'a jamais connu une eau potable. C'est-à-dire, les gens se servent des eaux de pluie, des eaux de puits, mm-hmm. et puis ces puits-là sont en communication avec des WC, des toilettes. Alors pourquoi l'État congolais ne doit pas songer à cela? Et puis pour aujourd'hui, l'État congolais se met à prendre des malades en charge et non de s'attaquer aux causes. Hein? Voilà, le ministre de la Santé est allé visiter des malades et donner des cadeaux aux malades. Pourquoi ces ministres-là ne doivent pas avoir une politique de...
Pour agir en amont, la prévention, oui.
Et plutôt qu'intervenir sur terrain. Dans de bonnes conditions pour que les gens ne puissent pas attraper cette maladie-là.
Voilà, mais oui, Amis, mais je voudrais vous poser une question. Vous avez dit qu'il faudrait, pourquoi ne pas faire la campagne de sensibilisation porte-à-porte? Pour vous, qui doit en principe faire cette campagne de sensibilisation porte-à-porte? À qui revient la responsabilité de cette campagne?
Ok, merci. D'après moi, je vois qu'il y a les services de l'hygiène, il y a les services de l'environnement, il y a les services aussi de la santé, comme on fait pour la poliomyélite. Pourquoi mais on vous... pas fait pour la fièvre typhoïde?
Oui, mais vous, Miss, parce que vous êtes informé, quelle est votre part des responsabilités en tant que citoyen mieux informé sur le danger de la fièvre typhoïde? Parce que vous pouvez attendre uniquement que le ministère le fasse alors que vous avez l'information?
Non, on ne doit pas attendre, parce que pour votre information, peut-être moi j'aimerais vous présenter géographiquement mon habitation. Moi je suis dans la commune d'Alongoli, à côté de l'antenne Vodacom. Ici, je suis en train de sensibiliser les jeunes d'abord, parce que je vois qu'il n'y a pas de WC. Je suis au chef d'avenir. Mm-hmm. Je suis en train de sensibiliser les jeunes d'abord que chaque partie ait d'abord une toilette.
Voilà.
Une toilette. Ça c'est un. Et de deux, là où il y a deux puits, il faut qu'on puisse prendre soin de tous ces puits-là. Qu'on puisse harceler, qu'on puisse mettre les puits dans de bonnes conditions hygiéniques. Voilà ce que moi je suis en train de faire.
Voilà, merci beaucoup, Amissi. Merci beaucoup, Amissi. En tant que chef d'avenue, vous représentez l'État. Le fait que vous le faites déjà, c'est bien. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une synergie, comme vous avez souhaité, entre les différents services publics pour parvenir à lutter contre cette maladie. Nous avons Fiston qui est à Walikale. C'est aussi honneur qui vous. Fiston, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs Radio Capi à Walikale et bonjour à notre invité.
Mmh, on vous écoute.
Ben, en fait, dans tout ça, moi, j'estime que la responsabilité est partagée, étant donné que nous tous, en tant que Congolais, et tout le monde doivent, n'est-ce pas, changer les mentalités par rapport au changement de mentalité. Mmh. évidemment, il y a une situation qui peut, n'est-ce pas, se présenter dans les milieux. Et tout le monde doit, n'est-ce pas, s'impliquer davantage pour, n'est-ce pas, combattre cette situation, ou du moins les petits qui se pointent. Et que, de la part de l'autorité locale, de la partie des acteurs de la société civile, et tout le monde a des, n'est-ce pas, des responsabilités. Ce n'est pas que parce que tu es de la société civile, si tu es de l'autorité de l'État, et que cette épidémie va vous attaquer, mais plutôt ça va attaquer, n'est-ce pas, tout le monde. Donc, question de rappeler et à tout le monde pour que qu'il y ait des changements de mentalité. À une situation qui se présente, envie de prévenir à une situation, ou du moins à l'épidémie qui se pointe, mais aussi la responsabilité de l'État est que si au moins il y a la situation qui est urgente, nécessairement l'État en tant que responsable, n'est-ce pas, de toutes les couches, est responsable de mettre en place, n'est-ce pas, le médicament ou les matériels qui peuvent faciliter le travail, ou moins qui peuvent intervenir à ces gens victimes par rapport à une situation.
Merci, Fiston. Vous pensez qu'en ce qui concerne la prévention, la responsabilité est partagée, société civile, pouvoir public, mais quand il s'agit d'une urgence, la responsabilité c'est au niveau de l'État pour ce qui concerne la prise en charge de ceux qui sont déjà malades. Nous allons à Kikwit, parce qu'on a parlé de Kikwit. Nous avons Louis-Serge qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de l'épidémie. Merci beaucoup, Louis-Serge, à vous aussi, à toute la famille et tous ceux qui nous écoutent à Kikwit.
Merci beaucoup.
Voilà. Et vous avez suivi, oui.
Presque la même phrase que l'ami de Walika. Je commence d'abord par saluer l'effort fourni par le personnel soignant de Kikwit. Ils ont fourni jusqu'à présent.
Oui, Louis-Serge, on a des petits soucis avec vous. Éloignez-vous un tout petit peu le temps qu'on revoie la ligne. Nous allons écouter Kennedy qui est en mouvement et on va revenir à vous. Ne coupez pas, mais essayez de vous déplacer un tout petit peu parce qu'on a des petits soucis avec la ligne à Kikwit. Nous écoutons Kennedy qui est en mouvement et on va revenir à vous. Kennedy, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi, beaucoup d'auditeurs sont revenus sur la responsabilité de chacun d'entre nous par rapport à la sensibilisation sur le changement de comportement, de mentalité, la gestion de notre environnement, notre hygiène pour lutter contre la fièvre typhoïde. Donc vous écoutez aussi. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter au-delà de tout ce qu'ils ont déjà dit, Kennedy?
Bon, franchement, le sujet est très intéressant. Les auditeurs ont donné des raisons qui font que une épidémie de la fièvre typhoïde. Et on a parlé d'une consommation d'une eau de mauvaise qualité, on a parlé du manque d'hygiène d'habitat, d'hygiène d'évacuation de matières fécales. Moi, j'ai juste deux petites questions à poser à notre invité.
Allez-y.
La première question, selon lui, est parmi toutes les raisons qui sont évoquées, qui font que puisse avoir une épidémie de la fièvre typhoïde, qu'est-ce qui est réellement à la base de l'épidémie qui sévit à Kikwit en ces moments? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est celle de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises par les autorités sanitaires pour qu'une telle épidémie ne se produise plus à Kikwit. À part la prise en charge médicale, réellement sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a la sensibilisation qui accompagne cette période pour qu'on puisse plus avoir une telle situation? J'ai dit, je vous remercie.
Merci beaucoup. Kennedy Dembujima, vous avez posé des questions à notre invité, il a pu noter. On voudrait aussi savoir les mesures concrètes pour éviter que cela ne puisse reprendre à Kikwit. Nous rentrons à Kikwit. Louis-Serge, maintenant, votre ligne, je crois, ça va. Vous êtes en train de parler des infirmiers, de ceux qui travaillent dans les hôpitaux. On ne vous a pas bien capté. Vous pouvez maintenant continuer.
Allô,
oui, Louis-Serge, vous étiez en train de parler de l'hôpital, de corps soignant, mais bon, on n'a pas pu suivre la phrase parce qu'il y avait des soucis avec la ligne. Oui, allez-y. Oui, maintenant c'est bon, vous pouvez avancer.
Merci.
Oui.
Je vais commencer par présenter les félicitations à l'équipe soignante de Kikwit, de tous les hôpitaux,
voilà,
pour le travail fourni, parce qu'il y a tendance maintenant à diminution un tout petit peu. Ils ont fourni un travail qui mérite vraiment félicitations. Bon, À ce qui concerne les causes, je suis pratiquement d'accord avec l'ami de Walikale. Les causes sont à partager. Les causes sont à partager. Et en commençant d'abord par nous-mêmes, la mentalité. Vous voyez, la mentalité dans laquelle nous vivons.
Mmh.
Ici, il y a une promiscuité formidable. Quelqu'un qui a vécu ici vers les années 80, 70, 90, lorsqu'il revient, il va être tout simplement effrayé de voir la promiscuité, surtout en ville basse.
Mmh.
Hein? La matière fécale s'est faite dans les sachets et s'est jetée dans la rivière Kouilou, Loukéni, et ainsi de suite. Alors, c'est ça le problème. Et le deuxième problème, c'est dans la cité même, là où nous habitons. Il y a beaucoup de parcelles, vous n'avez pas de toilettes. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que les services de l'hygiène ? Rien du tout. Rien du tout. Alors, il y a la prolifération aussi des malewas qui naissent du matin au soir.
Des restaurants de fortune, oui.
Des restaurants de fortune, exactement. Qui naissent du matin au soir. Et ceux qui préparent là-dedans, comment est-ce qu'ils sont ? Et quel ustensile on utilise pour préparer ? L'eau qu'on utilise pour laver les assiettes, et ainsi de suite. Vous voyez, de ce côté-là aussi, c'est formidable. Alors, vous avez aussi le... Comment dirais-je ? J'ai parlé de la promiscuité,
mm-hmm.
J'ai parlé des toilettes. Alors, il y a aussi l'eau, hein, l'eau des sources. Lorsqu'il pleut, toute la matière fécale qu'on dépose par-ci, par-là, ça descend vers les sources et on boit. Hein? Alors, il y a côté gouvernement, du côté de l'administration, je veux dire, il y a manque d'efficacité en ce qui concerne les services de l'hygiène, services d'environnement aussi. Et on ne s'occupe pas, on dirait que ça ne leur dit absolument rien. Même dans des communes, vous avez les services d'environnement, les services de l'hygiène, vous ne voyez personne passer dans une parcelle, l'une à l'autre, pour voir si réellement il y a des installations
sanitaires, tout ça,
le WC. De
voilà.
Voilà, il y a tout cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire les mesures ? Il faut renforcer les mesures d'hygiène. Il faut vraiment la sensibilisation. Elle va déjà. Il y a des services de sensibilisation.
Voilà.
Mais les gens, je vous ai dit, la mentalité fait que les gens ne comprennent absolument rien.
Voilà, merci beaucoup.
Doter la ville des moyens pour évacuer.
Merci Louis-Serge, vous avez évoqué toutes ces raisons, mais vous pensez qu'il faudrait renforcer le contrôle, renforcer la sensibilisation. Moukendi, vous êtes à Guémena, vous allez garder la ligne le temps que le docteur Bernard Kébéla puisse répondre, parce qu'il y a aussi deux questions qui ont été posées et des propositions des auditeurs qu'on peut commenter ensemble, hein, autour des mesures qu'il faudrait prendre. Et Moukendi, on va revenir à vous, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur, gardez la ligne, on va revenir. Pour ceux qui ont besoin d'intervenir, appelez-nous plutôt 081 890 63 15 081 890 63 15, mais vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un message électronique à l'adresse pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Docteur, vous avez noté d'ailleurs les deux questions posées par notre ami de Mbujimayi Kennedy. Mais au-delà de tout ce que les auditeurs avaient déjà évoqué, il y a l'auditeur de Kindu, même celui de Walikale, qui est revenu sur le problème de la synergie. Parce qu'on risque de croire que ce problème de la lutte contre ce problème de l'hygiène va être pour le ministère de la Santé. Y a-t-il des mesures concrètes, par exemple, en synergie ? C'est pas seulement l'environnement, mais c'est aussi le service qui donne les parcelles, il y a le service de l'urbanisme et habitat. Tout cela doit être dans un effort conjugué pour savoir où est-ce qu'on lotit, où est-ce qu'on ne peut pas lotir, les parcelles ont quelle dimension, où se trouve, où est-ce qu'on peut placer les toilettes, où est-ce que les gens peuvent s'approvisionner. Tous ces problèmes entrent en ligne de compte, n'est-ce pas, dans la gestion de nos cités. Parce que les auditeurs sont souciés de savoir s'il y a cette synergie-là actuellement qui se fait, comme quand on était dans les temps, on voyait comment quand même cela se faisait, les gens qui contrôlaient, les gens qui matraquaient nos parents à tout moment, qui fouillaient même, pourquoi, parce qu'ils n'avaient pas une fosse à ordures, parce que les toilettes n'étaient pas entretenues. Qu'en est-il de toutes ces mesures aujourd'hui d'une manière commune entre les différents services de l'État ?
D'accord. Merci beaucoup, M. Journaliste. Ce que je vais répondre, je vais essayer d'informer le public. Le ministère de la Santé a pris conscience que pour le contrôle des maladies, il ne peut pas arriver à résoudre ces problèmes seuls.
Mm-hmm.
Même actuellement, au niveau mondial, on parle de l'approche de contrôle des maladies qui est qu'on appelle une santé. C'est-à-dire une santé, c'est-à-dire quoi ? Pour arriver à contrôler les maladies,
mm-hmm.
c'est-à-dire que c'est l'homme qui est au milieu, mais il faudra que le ministère de la Santé soit, il faudra voir.
Mm-hmm.
La santé animale, puisqu'il y a beaucoup de maladies qui viennent,
des animaux. Animaux.
Il faut voir l'environnement comme nous en parlait. Mm-hmm. C'est quand on arrive, quand si on arrive à ne pas contrôler la santé animale, ne pas contrôler l'environnement, on peut pas contrôler la santé humaine. Ils sont vraiment satisfaits comme ils ont dit ça. Mais ici, la santé, le musée de la santé, les résultats et les conséquences en amont. C'est ainsi que même dans notre stratégie qu'on a décrit, que nous avons au niveau de notre politique au niveau du ministère de la Santé, nous avons une stratégie, l'annexe, qui est claire. La collaboration avec d'autres ministères. Mm-hmm. C'est vraiment développé. On peut pas faire ça seul. Il faut collaborer avec les autres. Parce que nous seuls, nous pouvons pas arriver à contrôler la maladie. Bon, pour répondre à notre ami Kennedy en disant, qu'est-ce qui est à la base de l'épidémie de Kikwit? Je pense que l'ami de Kikwit, c'est lui qui a parlé.
Là, lui, Serge, ouais, l'a vraiment décrit la situation.
Il a décrit la situation parce qu'il vient à Kikwit. Le problème de Kikwit, que nous l'avons pensé, bien sûr, il y a ses problèmes, il y a les problèmes de pauvreté. Il y a le problème de la gestion de matières fécales. Comme il l'a dit lui-même, il y a des sachets qu'on jette partout avec des matières fécales. Il y a aussi le problème de suffisance d'eau. Mm-hmm. Et avec tout ça, et tous ces facteurs réunis qui font qu'il y a l'éclosion. Maintenant, la grande éclosion, c'était de quoi? Dit à la, au retour des pluies. Dans cet environnement, parce que c'est pour même multifacteur, avec cet environnement, les pluies, mais là, ça déclenche. C'est ce qui se passe maintenant à Kinshasa. Nous avons abandonné de contrôler l'épidémie de choléra à Kinshasa, on perd du Coq-à-l'âne. Mm-hmm. Maintenant, nous avons observé, ça fait 4 semaines. Il y a plus de cas. C'est le retour des pluies. Et puis, des cas sont menacés concis dans des quartiers bien définis, des quartiers où il y a des problèmes de gestion de matières fécales, où il y a des quartiers inondables. C'est la même chose. Ici, comme Kikwit, c'était le retour des pluies. Ils ont trouvé tous les facteurs qui, je peux dire, favorables à l'éclosion.
Voilà, de l'épidémie.
Et puis après, vous avez tous les porteurs sains qui ont augmenté. C'est ça qui, ça va, mais le travail qui est fait sur place est admirable. Parce que les tendances sont à la baisse, on va mieux aller pour appuyer les amis sur place. Mais le ministère de la Santé, ayant pris conscience, nous avons un projet, on peut dire une direction de l'hygiène, avec un projet au niveau des zones de santé, les villages assainis, partout au niveau du pays. C'est pour répondre même à l'ami qui a dit, bon, écoute, la on voit pas ce qu'on fait. Non, le ministère de la Santé a tout un programme de village assainis, dans toutes les zones de santé. Du pays, parce que le pays est couvert par exemple 515 zones de santé. Mmh. Dans toutes les zones de santé, nous avons le village pour le village assainé. Qui est un programme qui va de la sensibiliser la population pour la bonne gestion de matières fécales, pour l'eau potable et pour la gestion même des, la gestion des immondices, la gestion des déchets domestiques. Il y a tout un programme, Mais cette sensibilisation, et c'est que l'autre qui a parlé, généralement c'est un peu tout le monde, lorsqu'il a parlé de la responsabilité partagée, bien sûr. Mm-hmm. Mais quand nous avons souvent en tête, nous voulons voir l'État-providence, que l'État fasse ça, on ne fera pas ça. Parce que nous disons que la fièvre typhoïde au village, mais c'est rare. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun se prenne en charge, chacun comprenne. Mais quand nous allons chercher l'État-providence, on ne pourra pas marcher. Bien sûr, il y a la responsabilité de l'État. Nous prenons dans les grandes agglomérations, il faut augmenter l'eau potable, il faut essayer d'améliorer les services de gestion des déchets domestiques. Il faut ça, c'est vraiment c'est l'État qui prend ça. Mais nous disons, mais les grands responsables, c'est l'homme lu-même. Mm-hmm. C'est l'homme lui-même, c'est-à-dire que c'est l'éducation de partie de la famille. Si votre enfant, il sait qu'il ne peut pas faire le matière fécale partout, quand un enfant... Moi, j'ai ma petite fille qui a une année. Mais je vous dis, quand il a besoin de faire la caille, vous voyez, il est agité, vous lui apportez les pots. Il n'y a personne qui a compris comme ça. Mais même, il ne pourrait pas les faire dehors. Mm-hmm. Les villages sont propres. Je prends seulement pour la ville de Bandundu, que je connais bien. Vous partez dans la ville de Bandundu. Vous trouvez cette ville est bien gérée sur le plan. Ça, je le dis. Hein. Sur le plan, même hygiène, matière fécale, qui quitte,
oui.
Ça, je vous le dis. Dans une même province. Non, c'est toi ici. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est l'État où vous vraiment abandonnez les parcelles sont grandes, c'est bien urbanisé, comme Kikwit, mais Kikwit, vous trouvez l'agglomération des gens. Pour moi, c'est, et puis, c'est que l'orateur vous a dit. C'est ça le grand problème. Prenons conscience de ce que, prenons conscience, et puis avoir un comportement conséquent. Les villages, il n'y a pas de feu de foyer, il y a moins. Mais nous avons les fièvres typhoïdes dans des grandes agglomérations. Mmh. Pourquoi? C'est la mauvaise gestion de matières fécales. C'est ça les grands problèmes.
Mais parce qu'on a parlé de cette synergie, y a-t-il moyen, je ne sais pas si ça peut figurer, parce que le ministère de la Santé peut aussi conseiller le gouvernement pour dire par exemple, voilà, pour éviter autant d'épidémies, nous avons cette promiscuité, peut-être qu'on peut élargir des mesures, je peux dire des grandes mesures, qui peuvent être même l'extension des villes, bon, je ne peux pas parler en termes de délocalisation, mais le ministère de la Santé, parce qu'il a l'expertise de savoir qu'il y a un danger qui nous guette ici, il y a autant de personnes qui sont concentrées dans un petit espace avec autant de problèmes de gestion des immondices, de gestion de matière fécale, ça peut à la longue provoquer des problèmes. Y a-t-il moyen de conseiller aussi techniquement le gouvernement pour dire est-ce qu'on peut faire des extensions?
Moi, je pense qu'il y a synergie. Je vous donne un exemple. Je pense nous avons la gestion des choléras. Nous les gérons, bien sûr, même au niveau de la ville. Vous trouvez tout le gouverneur, tous les partenaires, tous les autres secteurs, même au niveau de la ville. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Vous connaissez la ville Mouchy. Compte tenu de tout ce qui se passe, il y a l'assainissement qui était fait. Vous voyez les grands caniveaux qui étaient bien faits.
Oui.
Allez voir ces caniveaux.
On remplit.
Ah, voilà. Moi, je crois ici, ces synergies, oui, au niveau du gouvernement, hein, mais les problèmes, il faut notre responsabilité. Il faut que les gens comprennent. C'est ça que j'ai toujours dit. C'est les grands rôles que nous, côté santé, vous, les médias.
Voilà.
Vraiment, il faut qu'on se mette ensemble. Regardez à Vinimouchi, tout était bien fait. Pourquoi est-ce que le choléra qui a commencé depuis le mois de juin persiste en niveau de la ville? Si je vous avais dans ces quartiers, vous avez les cas. C'est le problème de l'homme. C'est le problème de l'homme. Il y a des gens dans cette ville, on a beau dire, qui continuent, quand il pleut maintenant, d'évacuer les matières fécales, de vider, de vidanger les fosses septiques. Ah, mes chers amis, l'État vient, quand vous voulez, l'assainissement vient, il fait le travail. On vous arrange les caniveaux. Mais vous ne prenez pas conscience. Vous continuez à vidanger. Et vous êtes étonné d'avoir même la fièvre typhoïde qui est ici dans la ville. Et vous êtes, non. Il faut que les gens comprennent d'avoir un certain comportement.
Mmh, voilà.
C'est nous sommes responsables. Mmh. Bon, alors, l'autre, rapidement, je vais répondre à celui qui a parlé, qui oui. Pute les bassins, depuis. Non, je lui dirais que, bon, bien sûr, si nous prenons la fièvre typhoïde, on a dit toutes les facteurs, c'est comme les grandes villes, vous avez la fièvre typhoïde ici à Kinshasa, vous avez ça à Lumbashi, toutes les grandes agglomérations, on voit ça. Ebola. Bon, bien sûr, c'est le passé, mais Ebola qui est au Kasaï. C'est-à-dire qu'on nous faut tropical ici, nous avons tous les facteurs pour l'éclosion, les épidémies virales, même les épidémies que vous avez, les problèmes qui est lié aux épidémies liées à l'eau. Là, on peut avoir, c'est tout. Il faut voir, mais si vous avez toutes les grandes agglomérations d'Afrique,
le problème, c'est
tout ça. Mais prenons pour nous. Mais moi, je pense que pour nous, comme nous voyons la différence entre la ville et le village, prenons conscience.
Et ça peut marcher. Voilà, nous avons écouté les trois derniers auditeurs parce qu'on termine c'est bientôt cette émission. Nous avons Mukendi à Guémena, Jacques qui est à Kikwit, écoute qui est à Ariwara en province orientale. Monsieur, nous allons vous donner la parole pour clôturer cette émission consacrée à la lutte contre la fièvre typhoïde.
Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiookapi.net.
Mukendi, vous êtes à Guémena dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous écoute, monsieur.
Oui, je voulais vous poser la question à l'invité concernant le problème de typhoïde. Nous remarquons ici à Guémena, nous sommes dépourvus de l'eau potable et parfois la chute des eaux distribue de l'eau potable, mais cela coûte très cher. La population n'arrive pas à se servir à cela d'une manière cohérente. Alors, je voulais poser une question à l'invité qui puisse me donner les précisions. Si parfois nous utilisons des eaux des puits et que nous préparons avec la nourriture, est-ce que les microbes agents de la pollution de la typhoïde peuvent être contenus dans la préparation de la nourriture? Ça, c'est un. Et deuxièmement, quand nous lavons avec des eaux qui sont mal traitées, est-ce que nous pouvons aussi avoir. Comment dirais-je, la possibilité d'être contaminé par des typhoïdes quand nous avalons certaines bouteillettes qui entrent dans la bouche, alors qu'ils nous disent cela afin que nous puissions savoir comment on peut éviter cela parce que ce cas est fréquent ici à Guémena.
Merci Mukendi. Deux questions. D'abord, vous avez l'eau des puits, mais on prépare la nourriture avec ça. Est-ce que les microbes peuvent résister quand la nourriture l'eau est utilisée pour préparer la nourriture, mais l'eau qu'on se lave qui est aussi sale, peut-on se contaminer à travers cette eau? Nous avons Jacques qui est à Kikwit. Bonjour Jacques.
Bonjour Monsieur Thiro.
On tend vers la fin de l'émission. En une minute et demie, on vous écoute.
Voilà, j'ai une question simple. Oui, je voudrais poser cette question à notre invité.
Oui.
Si cette maladie n'a pas de vaccin, puisque d'après moi, les mesures d'hygiène ne suffisent pas.
Voilà, y a-t-il un vaccin contre pour la fièvre typhoïde, hein, parce que les mesures d'hygiène à elles seules ne suffisent pas. Et enfin, Koutou qui nous appelle de Ariwara en province orientale. Bonjour Koutou.
Bonjour Radio Kapi, bonjour l'invité.
On vous écoute.
Oui, effectivement, cette fièvre typhoïde existe. Et quant à moi, l'émission d'aujourd'hui est bien coïncidée avec... nous sommes à la fin des... On a déjà passé la fin des premières législatures. Nous sommes au début de deuxième législature de notre pays. Quant à moi, c'est une faille de la part de notre gouvernement. Parce que si le gouvernement congolais avait bien lu, avait bien revu ses agendas, je crois qu'on allait revoir à baisse les taux de... je ne sais pas, de contamination de fièvre typhoïde. Pourquoi je dis? Parce que... en grande partie, nous trouvons sur le commerce de l'eau, parce que dans notre milieu, l'eau, ça devient un commerce, ça se va à 223 Congolais. Vous voyez que ça, ça fait maintenant que la population boit l'eau qui est sale, l'eau est pure, il n'y a pas de l'eau qui est, je ne sais pas, de tout ce qui est aménagé, ni quoi. Alors, quand on a comme solution à cet endroit, il faut que le gouvernement, bien que nous sommes au début d'une nouvelle législature, il faut que le gouvernement puisse revoir son agenda, voter un budget conséquent pour construire de l'eau à ces villages, surtout qui sont encore inondés dans des brousses, et on peut aussi organiser des séminaires de sensibilisation. Ce n'est pas seulement le ministère de Santé qui doit faire ça, nous avons le ministère de l'Environnement, des Plans et d'autres, et après surtout faire le suivi, parce que nous les Congolais, quand votre budget, nous sommes de vrais détourneurs. Merci.
Merci beaucoup, Koutou Adrako. Il faudrait aussi disponibiliser l'eau potable, sensibiliser les gens, mais aussi faire les suivis sur la gestion des fonds qui sont octroyés pour tous ces travaux-là. Trois questions ont été posées. On vous écoute, docteur Benoît Kemela, parce qu'on va terminer cette émission oui, dans deux minutes et demie.
Dans deux minutes, on peut répondre rapidement.
Okay.
Moi, je crois que pour la médecine Kemela, bien sûr, quand vous avez l'eau qui est suivie par les matières fécales, il y a beaucoup de risques que vous puissiez attraper la fièvre typhoïde. Mais il faut savoir, la transmission de la fièvre typhoïde, nous avons une transmission qui est directe, c'est plus transmission indirecte, c'est des normes à homme. Mais pour toutes ces transmissions qui est élevée, dans le milieu où vous avez les porteurs sains, dans le milieu où vous avez des malades, ou dans le milieu où vous avez des malades guéris, parce que je vous ai dit ici qu'il y a une personne qui est malade, il peut durant une année, en train de se traiter les germes. Et puis, cette habitude où on utilise même les antibiotiques...
de manière abusive, si on peut dire.
Quand vous n'avez pas de quantité suffisante entre deux heures qu'il faut. Mais vous, c'est ça qu'on renforce le nombre de porteurs sains, hein, puisque avec ça, il y a pas tous les jeunes ne sont pas tués, et puis les jeunes restent dans l'organisme, et puis ils vont continuer à les traiter. Bon, quand vous avez dans le milieu où il y a les porteurs sains, dans le milieu des malades, c'est dans le milieu où la transmission directe est très élevée. Il y a la transmission directe, comme l'a dit, c'est par la gestion des aliments, par vous avez les mouches, tout ça, c'est de façon indirecte. Bon, dire ici, bon, les eaux de l'eau de puits, ça je ne saurais pas répondre, il faut qu'on fasse l'examen de l'eau des eaux.
Il y a
maintenant pour dire voilà. Que si c'est suivi par les matières fécales, il n'y a pas dit que tout l'eau soit suivi par les germes, il faut dire non. Mais ça je ne saurais pas répondre, il faudra qu'on fasse. Mais s'il y a déjà l'eau ici, ils ne prennent pas l'eau qui n'est pas potable, il y a les risques. Les risques là, parce que l'eau n'est pas traitée, quand l'eau n'est pas potable, les risques là. Bon, maintenant, pour notre ami Jacques, je dirais que c'est le vaccin. Oui. Mais cet vaccin n'est pas efficace. Il a une durée, bon, c'était, ça allait être une durée de vaccin, une durée de vie de ces deux ans. Ah. Donc, il faudra après deux ans répéter. Et puis, mais quand on voit son efficacité, ce n'est pas 100%. C'est ça le grand problème. C'est pour ça là que l'OMS et tout le monde, on encourage par cette stratégie. La meilleure stratégie, c'est quoi? C'est, il faut l'hygiène. Si la fuite pour n'est pas en Europe, maintenant, c'est quoi? C'est l'hygiène. Ouais, c'est l'hygiène, quoi.
Voilà.
Et puis, les boulots, bien sûr, il faut, si on veut, comme il a dit, si on veut, il faut qu'on travaille ensemble, c'est qu'on a aussi voilà. Que c'est. Mais il faudra aussi des grands travaux, donner l'eau potable à la population et surtout sensibiliser la population,
sur les
d'avoir un comportement vraiment responsable au niveau de l'hygiène. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Benoît Kemela, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vos auditeurs de nous avoir accueillis chez vous. Cette émission se termine par là, mais on va prendre rendez-vous pour demain vendredi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas?
Voilà. Et...
Et demain vendredi, vous savez, c'est 48 heures de la célébration de la fête de Noël et après des 7 jours de la célébration du Nouvel An, l'émission de demain va tourner autour des préparatifs des festivités de fin d'année. Comment cela se déroule-t-il dans votre milieu? Soyez nombreux à vous inscrire et témoigner par rapport à comment vous préparez les fêtes. Appelez-nous au 081 890 6315, mais envoyez-nous un message électronique pour vous inscrire à pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe Marie-Chantal Lumba, Titi Poutou, Clovis Louboula, Jocelyne Nyanga qui nous ont aidé à produire cette émission mise en onde par Mimi Kindou et Nicole Ngaka l'a supervisée. Restez surtout en bonne compagnie de Radio Capi. Au revoir.